Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Face à Face, un podcast qui aborde les plus grandes confrontations de l'histoire de la musique. Ici Sophie Rosemont.
Et moi c'est Christophe Comte. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un des groupes les plus importants des années 80, The Police. Leur carrière a été brillante mais ça n'a pas duré puisqu'ils se sont séparés brutalement en 1984. En restant en relativement bon terme, hein, ce qui est plutôt étonnant vu les bagarres épiques qui ont eu lieu en studio et en tournée, d'où l'objet de ce podcast, ils en sont carrément venus aux mains à certains stades, hein, il faut bien le dire, mais au final, ils sont restés amis, ce qui paraît incroyable vu d'où ils partaient.
Bah, c'est vrai que c'est assez impressionnant, notamment parce que la première chose à laquelle je pense, et je pense à The Police, c'est à quel point ils se détestaient. Surtout Sting et Stewart Copeland, les deux fortes personnalités du groupe. Et au milieu, on avait Andy Summers, dont l'un des grands talents était quand même de rester en dehors de leur dispute pour pas se prendre de balles perdues.
C'est sûr, les trois membres du groupe The Police n'étaient pas des copains de lycée qui se réunissaient pour former un groupe. Contrairement à tous les autres groupes dont on parle généralement, eux, ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ils ne se sont pas réunis par amitié, mais autour d'un projet commun. Et quand ces ambitions ont commencé à diverger, ben c'est là que ça a commencé à se compliquer. Sauf que c'est arrivé pratiquement dès le départ. Stewart Copeland, le batteur, a d'ailleurs dit « on était liés par le porte-monnaie, au moins c'est clair
hein. ». Ah oui, et puis ça s'est complètement reflété dans toutes les guéguerres que Stewart et Sting ont menées. Hein. Et d'ailleurs, au début, il faut quand même le dire, c'était le groupe de Stewart Copeland.
Alors, Copeland, il faut le savoir, c'est le fils d'un agent de la CIA, et oui, qui a vécu dans tout le Moyen-Orient avant de s'établir à Londres au milieu des années 70. D'abord, Stewart, il est batteur d'un groupe de rock progressif, ça partait mal, hein. Et il est devenu célèbre après coup, hein, après qu'il soit parti, ce groupe qui s'appelle Curved Air. On le connaît un petit peu, mais bon, c'est pas...
Oui, bon, c'est pas non plus transcendant.
Alors, il joue avec eux pendant à peu près 2 ans, avant que le punk devienne majeur sur la scène britannique. Alors, ça l'intriguait, cette passion sans limite et cette vitalité qu'il y avait dans le punk. Et il voulait aussi connaître un certain succès qu'il n'atteignait pas avec ce groupe, Curved Air.
Mais on a du mal à le dire, ce nom.
Ah là là,
oh là là, Curved
Air. Non seulement musicalement, c'est chiant, mais alors à dire, c'est pire. Du coup, il décide de créer ce qu'il appelle un groupe guérilla, un projet vraiment réduit à l'essentiel, un power trio, hein, comme on disait à l'époque, comme The Jam par exemple, rudimentaire mais efficace.
Et c'est là que Sting entre en scène. Mais avant qu'on parle davantage de Sting, on va quand même juste glisser à quel point le jeu de batteur de Copeland a vraiment beaucoup d'énergie et riche de polyrythmie. C'est un élément essentiel de la musique de The Police. Bon bref, cet aparté est fait, hein, quand même rendons à César ce qui est à César. Il rencontre un type qui s'appelle Gordon Sumner, mais qui insiste pour qu'on l'appelle Sting, Christophe.
Oui, je crois qu'il y avait une histoire de pull. Hein. Il y avait un pull qu'il n'arrêtait pas de porter et qu'il faisait ressembler, figure-toi, à une abeille. Et ses copains de lycée l'appelaient Sting, en anglais piqûre, quand il le portait et puis c'est resté. Donc s'il avait porté un slip un peu court, on l'aurait peut-être surnommé String, va savoir.
Et Sting chantait dans un groupe jazzy qui s'appelait Last Exit. Et Stewart Copeland assiste à un concert. Il n'aime pas du tout leur musique, hein, ça c'est clair. Mais il trouve que Sting, quand même, il a quelque chose. Il est beau gosse, il a une présence. Donc ça convainc Stewart de faire de lui le chanteur de son groupe de punk. Donc il embarque Sting dans l'aventure avec un guitariste, alors lui par contre 100% punk, qui s'appelle Henri Padovani, mais qui ne fera pas vraiment partie de l'équipe très longtemps.
Ah oui, Henri Padovani, c'est un peu notre fierté nationale.
On l'adore.
Il est français, il est corse.
Enfin, il est corse, attention. Attention à ce que tu dis.
Surtout toi, il est français. Non, il est corse en fait. Bon bref, Henri Padovani, un type absolument incroyable. Et c'est vrai que ça a commencé en faisant un peu de la fausse musique punk. Hein. Déjà, le punk, c'était la pagaille, le désordre contre l'ordre établi. Et prendre pour nom de police, ça fait un peu louche en soi. Mmh. Mais faire du punk par opportunité, c'était vraiment l'idée de Stewart Copeland. Leurs premières chansons, elles font illusion au milieu de Clash et des autres groupes punk authentiques, et notamment ce premier titre qu'ils vont sortir qui s'appelle Fallout, qu'on écoute. Alors Copeland, il voit loin hein, quand même, Stewart Copeland. Il fonde son label en 1977 pour enregistrer ce morceau. Et c'est clairement une affaire de famille parce que son frère Miles va devenir leur manager et son autre frère Ian fait office d'agent. Alors c'est vraiment le projet de Stewart, mais l'autre membre clé, c'est Andy Summers qui était, alors lui, pour le coup, un vétéran de la scène londonienne. Il avait 10 ans de plus que les deux autres, hein, que Stewart et Sting. Et il jouait avec des artistes comme Eric Burdon, Kevin Ayers, Eric Clapton ou Jimmy Page. Donc, c'était vraiment...
Quand même, hein.
C'était une autre époque, bien avant le punk. Et il était d'une autre génération, clairement meilleur musicien que Sting et Stewart. Mais il adore bosser avec ces petits jeunes. Il trouve qu'ils ont vraiment quelque chose de particulier. Et puis, il s'invite carrément, il tape l'incruste dans ce groupe qui est embryonnaire. Et il arrive, il veut absolument jouer avec eux. Et Stewart, au départ, n'est pas très chaud.
Non, il n'est pas très chaud. Il essaye même de l'en dissuader, d'ailleurs.
Ben oui, il finit par céder parce que Andy, c'est quand même un très bon musicien. Et puis, la première chose qu'il fait, c'est de virer la seule personne qui connaisse vraiment le punk, en l'occurrence, notre ami Henri Padovani, un type, on le redit, absolument hilarant et génial.
Et il y a eu un documentaire sur son passage dans le groupe, hein, le passage d'Henri.
Fabuleux documentaire.
Génial. Rock and Roll, of course.
Ouais,
déjà, rien que le titre, déjà, est extraordinaire. Et le documentaire vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et puis surtout, Henri, on l'adore à la fin du documentaire. Parce que lui, finalement, il vit pas si mal le fait de s'être fait virer du groupe, alors qu'ils ont fini par avoir un succès énorme.
Ouais, et puis il dit même qu'il y croyait pas trop.
Ouais, il y croyait pas trop. Il dit, bah, je pensais pas qu'il allait sortir des trucs comme ça, Sting. Ouais. Et à l'époque, ça avait même été un soulagement, vu que c'était un rocker complètement punk. Donc on en arrive à cette nouvelle composition du groupe, hein, complètement dingue. C'est un groupe a priori de punk, avec un batteur qui vient du rock progressif, un bassiste plutôt jazz et un guitariste aguerri.
Andy Summer a été un élément crucial du groupe, hein, notamment pour son attitude, même si moi, perso, je préfère Padovani, hein, qui a monté ensuite les excellents Flying Padovani.
Super groupe.
Un super nom aussi, Flying Padovani. Mais Andy Summer, c'était un guitariste très souple, hein, humainement comme au niveau de son jeu. Il n'avait pas de problème d'ego, comme beaucoup de guitaristes, hein, qui s'astiquent le manche en pensant qu'à leur solo sous la lumière. Et c'est lui, il a assuré toute la profondeur et la musique de The Police, en ajoutant des couleurs aux sections rythmiques déjà très chargées du groupe.
Et le deuxième rôle majeur qu'a joué Andy Summer, c'est que ce n'était pas un guitariste punk, et que ça a vraiment libéré Sting en tant que compositeur. Ça lui a permis d'écrire des chansons beaucoup plus sophistiquées. On a parlé Fallout, qu'avait composé Stewart Copeland. C'est vraiment une chanson punk, bon, académique. Mais maintenant qu'Andy Summer rejoint le groupe, ils peuvent écrire des chansons qui ne sont que très superficiellement punk, hein, si on peut dire ça comme
ah,
ça.
Oui.
Voilà. Hein. Si on analyse leur musique un peu en profondeur, ils utilisent des accords, une métrique beaucoup plus compliquée, ce qui ajoute vraiment quelque chose à ces chansons et qui les rendent d'ailleurs assez accessibles pour les amateurs de pop. Elles peuvent avoir l'agressivité, l'énergie du punk, mais elles ont ce truc en plus qui plaît à un public beaucoup plus large.
Alors complètement, Stewart Copeland a d'ailleurs dit dans une interview, on faisait comme les groupes punk parce qu'on n'utilisait que 4 accords dans nos chansons, mais c'était 4 accords très complexes. Puis les groupes, les punk d'ailleurs, ils n'allaient pas jusqu'à 4. Hein,
oui, 2 c'était amplement
ouais,
suffisant.
2 c'était déjà loin. Alors c'est ça qui est la grande différence entre Police et le reste de la scène punk, dans laquelle ils n'ont jamais vraiment été intégrés, et ça fait quand même un atout une fois que la mode New Wave commence à retomber. The Police, bah voilà, ils sont sur un genre de musique qui est plus consensuel et plus grand public.
Complètement. Et le fait qu'Andy Summers les ait rejoints a permis à Sting donc de se lancer dans ces chansons dont il avait vraiment envie, parce que le punk, Sting, et ça ne l'intéressait pas du tout. C'est vrai qu'on voit mal Sting se scarifier « Donne-moi une dose hein, » sur le torse, hein, comme l'a fait Sylvie Sue sur une autre époque. À partir du moment où il a pu explorer des palettes sonores différentes, Sting s'est vraiment remis à écrire des chansons, comme il le faisait pour son ancien groupe de jazz, Last Exit. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est vraiment épanoui en tant que compositeur. Et c'est aussi à ce moment-là, Christophe, que Stewart s'est rendu compte qu'il n'était plus vraiment le meilleur à bord. En plus, Andy n'était pas vraiment du genre à se laisser faire face à Stewart. Et ça donne un mélange étrange d'influences musicales qu'on entend sur Roxanne, la chanson qui les a rendus célèbres. On en écoute un bout tout de suite. Incroyable ce titre, hein, Christophe. Et Sting l'a écrite dans un style qui se rapproche d'une bossa nova, vaguement inspirée d'Astrud Gilberto. Bah oui.
Très vaguement. Hein.
Très vaguement, mais bon, il le revendique comme tel. Hein, donc j'essaie de le citer, hein, ce bon vieux Sting. Mais de la bossa nova sur la scène punk, c'était un peu du suicide, on va dire. Et du coup, Stewart rajoute une rythmique qui fait penser, qui évoque hein, le reggae, qui est évidemment une musique complètement appropriée par la scène londonienne suite aux différentes vagues d'immigration.
Oui, et puis les Clash et ce genre de groupe punk avaient déjà intégré le reggae. Donc
largement.
Police est arrivé dans cette scène qu'on appelait le reggae blanc. C'était vraiment comme ça. Et d'ailleurs, un de leurs plus grands albums s'appelle Regatta de Blanc, qui était une sorte d'allusion à cette scène où il y avait Joe Jackson, etc. Alors, ce qui fait l'identité du groupe, qui est quand même assez unique, c'est ce mélange d'influences éloignées où l'on retrouve du punk un petit peu, mais aussi de la new wave, du jazz, du reggae. Entre Roxanne et Fallout qu'on a écouté tout à l'heure, il y a vraiment un monde. Hein, on ne devinerait jamais que c'est le même groupe. Bref, c'est la chanson Roxane qui a fait leur célébrité, mais ça a été plutôt lent à prendre. Il a fallu à peu près un an pour qu'elle parvienne en haut des classements. Et à cette période, pendant que Roxane passait à la radio au Royaume-Uni, Police était déjà aux États-Unis pour faire une tournée de petites salles à l'époque. Leur premier concert, c'était au CBGB's.
Plutôt classe, hein, évidemment. Iconique.
Et quand ils retournent en Angleterre, eh ben, c'est des stars. Les mecs, ils sont partis, ils étaient rien, et ils reviennent, et là, ils sont partout. Ils ressortent Roxane en 45 tours en 79, et là, c'est un hit énorme. Ils sortent leur premier album en novembre 78, hein, il était sorti avant. L'album s'appelle Outlandeuse d'amour.
Alors, lol.
On peut s'arrêter une seconde sur les titres d'albums à moitié en français, c'est n'importe quoi.
Sujet de thèse.
Ah oui, les Anglais adorent, hein, Outlandeuse d'amour, Regatta de blanc, les Anglais savent pas ce que ça veut dire, mais nous non plus, mais ça fait exotique, ils ont l'impression que c'est du français. Et Sting sans doute joue un peu sur cette ambiguïté, il se fait passer un peu pour un type un peu littéraire. Et puis les chansons sont quand même hyper accrocheuses, on peut citer par exemple Can't Stand Losing You. Allez, un petit extrait. Make no sense, I can't stand losing, I can't stand losing, I can't stand losing, I can't stand losing, I can't. Il y a une thématique, hein, Can't Stand Losing You, il y en a une autre qui s'appelle Next to You, l'autre qui s'appelle So Lonely, donc on voit qu'il y a quand même... Et puis il y en a une autre qui s'appelle Born in the 50s, j'imagine que c'est assez autobiographique. Et puis après la sortie, il se lance dans une énorme tournée internationale et c'est là que la célébrité instantanée commence.
Finalement, ça fait une Jimi Hendrix à l'envers.
Eh oui, tout à fait.
Parce qu'Hendrix avait dû attendre de débarquer à Londres pour devenir célèbre. Jusque-là, la ségrégation, la précarité faisaient qu'il ne pouvait pas faire autre chose que d'accompagner des musiciens plus connus que lui. Et quand il est rentré aux États-Unis après avoir explosé à Londres, avoir épaté Eric Clapton et consorts, il était presque connu comme un phénomène britannique, ce qui a fait sa popularité sur sa terre natale. Avec The Police, c'est l'inverse. Ils sortent Roxane, ça prend pas vraiment. Bon, ok, ils partent en tournée américaine, et là, elle fait sensation. Et quand ils rentrent en Angleterre, on les voit comme un phénomène aux États-Unis, ce qui, du coup, les propulse au Royaume-Uni. Et Sting devient une star, Christophe. Il finit même par jouer dans un film que tu connais bien, Quadrophenia des Who en 79.
Entre nous, Sophie, c'est la meilleure chose qu'il ait faite.
Ah bah, clairement.
On est méchants, mais c'est vrai que c'est un rôle qui est incroyable.
Et puis c'est The Who, quoi. Et ouais. Puis c'est Quadrophenia, voilà, quoi. Et on commence vraiment à le considérer séparément du reste du groupe, Sting, même si son apparition dans ce film a été positive, hein, pour la notoriété de The Police. Mais dans les interviews, on commence à lui demander si les deux autres membres sont jaloux de toute l'attention qu'on lui porte. Et évidemment, quand les médias commencent à poser ce genre de questions, ça plante la mauvaise graine, ça pourrit un peu l'ambiance.
Alors, il y a un documentaire réalisé par Andy Summers et on voit les journalistes qui demandent à Sting pourquoi il écrit plus de chansons que les autres. Et on le voit, Sting, il fait un peu la grimace physiquement. On voit qu'il n'est pas très à l'aise avec ça. Il devait avoir l'impression que la presse essayait de créer dès le départ une scission entre lui et le reste du groupe. Alors évidemment, il y a du vrai, hein, dans cette affirmation. Je pense que la presse avait l'impression que Stuart Copeland et Andy Summers étaient un peu là pour accompagner Sting. Et dans ses meilleurs moments, The Police, c'était quand même un vrai groupe, en témoigne Zenyatta Mondatta, un troisième album qui est sorti en 1980. Les deux premiers albums avaient pas mal de hits, hein, notamment le fameux Message in a Bottle.
Un peu cette chanson.
Moi, je me souviens exactement le jour où je l'ai écoutée, décembre 79 à Noël. J'ai mis.
Ouh, c'est l'année où je suis née.
Ah bah voilà. Bah, moi, j'étais déjà minot, mais j'avais l'album Regatta de blanc avec tous ces tubes, dont Message in a Bottle, Walking on the Moon évidemment, et puis Bring on the Night, trois tubes énormes, et toutes ces chansons sont devenues évidemment des classiques.
Et donc, quand Sting lui arrivait avec de nouvelles chansons, il avait une idée très précise de la manière dont il voulait qu'elles sonnent, ce qui limitait pas mal Andy et Stewart. Et plus tard, Stewart va confier en interview, il avait une vision très intelligente, mais pour Sting, il n'y a qu'une vérité. Tous ses instincts artistiques le poussaient dans une direction, mais les deux autres mortels dans la pièce, eux aussi, ils avaient leur vérité musicale.
Et d'ailleurs, Stuart Copeland, on s'en souvient un peu plus du tout maintenant, mais à l'époque, il avait un projet parallèle qui s'appelait Clark Kent. Et ça n'avait rien à voir avec Police. Moi, j'adorais Clark Kent. Enfin, voilà, c'était une parenthèse.
C'était une parenthèse, d'ailleurs. Ne fût-ce que pour le nom du groupe, mais... on l'adore.
Bah, voilà,
Clark Kent. Exactement. Donc, dans le groupe, la dynamique devient vraiment celle d'une lutte de pouvoir pour dire « Est-ce que tu vas me laisser apporter ma pierre à l'édifice ? Je t'en supplie, Sting !» Et Stewart, qui a toujours été fort sur les punchlines, a quand même dit plus tard « qu'être dans The Police, je cite, c'était comme porter un costume Prada en fil barbelé.
Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire exactement, mais c'est pas mal, hein, comme définition. Puis, fil barbelé, c'est toujours intéressant. Mais globalement, si on regarde des albums de The Police, c'est vraiment Sting qui est l'auteur de tous les hits. Hein. Les morceaux d'Andy Sumner et de Stuart Copeland sont beaucoup plus excentriques, plus expérimentaux. C'est un peu plus sophistiqué, on va dire, comme sur l'album Zenyatta Mandata, dont on a parlé. La chanson qui s'appelle « Behind My Camel ».
C'est dur,
hein. C'est Andy Summer, moi j'adore. Je trouve que c'est une chanson qui rappelle un peu les expériences de Brian Eno.
Au moins bien quand même.
Un morceau. Ah non, moi je trouve qu'il aurait pu être sur les disques de Eno de l'époque, qui s'appelait Another Green World ou Before and After Science, des disques absolument remarquables et fondamentaux dans l'histoire du rock. Mais pour des raisons que j'ignore, Sting détestait cette chanson, figure-toi.
Bah, sur ce coup-là, je le comprends un peu. Et il a raconté plus tard qu'il avait carrément pris le master de la chanson et qu'il l'avait enterré dans le jardin derrière le studio pour qu'elle n'apparaisse pas sur l'album. Bravo. Mais lui, Andy Summers, il a pris une pelle, il est allé déterrer la bande et il a fait en sorte qu'elle figure sur l'album. Tiens. Et au final, bon, bah, il faut quand même bien le dire, la chanson a gagné un Grammy. Et Sting, plus tard, a avoué qu'à cette période, on ne s'aimait pas vraiment, plus trop. Il avait trois gros égos.
On ne se roulait pas des pelles, on s'en servait juste pour
on s'aimait pas trop.
Pour déterrer.
Il y avait trois gros égos qui tiraient chacun dans des directions opposées. J'ai commencé à être sans scrupules et assez cruel pour qu'on arrive à enregistrer mes chansons. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. Donc, Stewart a parlé de confrontation physique dans plusieurs interviews. Et Andy, lui, a parlé d'un incident en particulier où Sting avait complètement pété les plombs contre lui. C'était lancé dans un flot, mais vraiment ininterrompu d'injures qui avait laissé un peu tout le monde sur le carreau, quoi. Et apparemment, Stewart avait écrit sur ses pots de tambour « Sting est un connard » pour que ça le motive à taper encore plus fort.
On l'a tellement pensé fort que lui, il l'a fait.
Et ça, c'était à peine 3 ans après la formation du groupe, Christophe.
Oui, ce qui nous amène à l'album suivant de The Police, qui s'appelle Ghost in the Machine, en 1981. Les choses ont commencé à devenir vraiment toxiques entre eux à ce moment-là. Non seulement Sting dissuade les deux autres d'écrire des chansons, en gros, il leur dit « Poussez-vous de là, c'est moi qui domine le jeu », il arrive en plus avec des démos qui sont très aboutis hein, de ces chansons, ce qui limite complètement la créativité artistique des deux autres, notamment chez Stewart Copeland, hein, qui n'avait pas du tout envie de jouer comme une boîte à rythme. Alors, pour défendre Sting, c'est vrai qu'il avait quand même gagné le droit de prendre la direction artistique du groupe, hein, étant donné le nombre de singles, de hits qu'il avait composés. Et d'ailleurs, ça continue, hein, sur cet album Ghost in the Machine, il y a évidemment une série de titres hein, assez incroyables, notamment le Every Little Thing She Does It Magic à l'époque, un single, et puis moi hein, que j'aime beaucoup qui s'appelle Spirits in the Material World. Dans cet album, on entend quand même qu'il s'éloigne de ce style originel de reggae blanc. Hein. Ça commence vraiment à ressembler plus à ce que sera la carrière solo de Sting, c'est-à-dire une musique pop beaucoup plus consensuelle, mais assez luxuriante et très bien produite.
Toujours très bien produite. Et pour revenir sur Ghost in the Machine, c'est vraiment un album où The Police n'a pas du tout peur d'élargir sa palette sonore, ce qui en soi est aussi un marqueur de la carrière du groupe. Un peu comme le fait d'enregistrer à l'étranger pour éviter de payer des impôts. Hein. C'est pas toujours bon signe.
Ah bah oui, ça fait des concerts pour l'Éthiopie, mais hein, quand il s'agit de planquer son magot...
On se barre en France.
Ah, exactement.
Donc on a cet album où il rajoute couche sur couche de voix, des synthés et même des parties de corps. Ouais, ouais. Et Sting était tellement impliqué qu'il a dit plus tard, attention Christophe, après 3 albums, on a voulu s'éloigner le plus possible des sonorités qu'on avait créées jusque-là. Je voulais absolument jouer du saxophone.
Oh là 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 là.
Ouais, j'ai mis ça en gras. Hein. Attention, je voulais absolument jouer du saxophone.
C'est vraiment la dernière chose qu'on a envie d'entendre de la part d'un chanteur d'un groupe. Si tu es batteur, c'est le moment où tu dois te dire « Oh, j'aimerais bien qu'il y ait un siège éjectable derrière ma batterie. Je pourrais m'éjecter hors du studio en entendant mon chanteur dire qu'il voudrait jouer du putain de saxophone. » Alors qu'en plus, il ne sait même pas en jouer. Ça veut dire qu'il ne sait plus du tout ce qu'il fait là.
Ah bah d'ailleurs, cette nouvelle approche n'a pas vraiment plu aux 2 autres membres du groupe, hein, tu vois. Donc Andy Summers n'a jamais caché sa haine pour les synthétiseurs et pour ce son qui n'était plus du tout de The Police pour lui. Et plusieurs années plus tard, il dira « Vers la sortie de Ghost in the Machine, j'ai commencé à être vraiment déçu de la direction artistique du groupe avec tous ces synthés qui faisaient leur apparition. Ce sentiment fort de jouer en trio, toute la créativité, la dynamique qu'on avait créée était en train de disparaître. On a fini par être des choristes en background des chansons pop de Sting. »
C'est là qu'on voit jusqu'où l'ego de Sting a pu aller, mais pour être franc, les deux autres avaient leur ego aussi. Hein. Il y a une histoire incroyable à propos de cet album, Ghost in the Machine d'ailleurs. Il y a dedans une chanson d'Andy Summer qui s'appelle Omega Man, qui est plutôt une bonne chanson, assez respectable. Hein. Au départ, le label AEM, le label de Police, voulait que ce soit le premier single de cet album, mais Sting avait catégoriquement refusé. Il voulait que ce soit une de ses propres chansons. En même temps, même si Omega Man est une bonne chanson, elle est quand même pas aussi forte que Every Little Thing She Does in Magic ou Spirit in the Material World sur cet album, qui sont vraiment deux tubes imparables.
Bah, c'est clair. Et il aurait fallu que Sting soit quand même plus délicat dans ses façons de faire, certes. Mais à cette période, il est tombé toujours juste sur ce qui allait marcher, ce qui allait plaire au public. Rétrospectivement, ça paraît même étrange que ce soit Omega Man que le label ait voulu mettre en avant, non, alors qu'il y avait quand même... Voilà, incroyable. Alors qu'il y avait toutes ces autres chansons assez géniales de Sting sur ce disque. Après, c'est un album assez sombre, il y a des références à la violence en Irlande du Nord, au skinhead, ce qui n'empêchait pas le succès du groupe. Et en revanche, ce succès, il influait vraiment de façon assez négative sur la vie personnelle des trois membres. Leur mariage était en train de s'écrouler. Ils étaient un peu coincés dans cette voie sans issue parce que ça faisait partie d'eux maintenant. Ils ne voyaient pas d'autre alternative que de faire des disques de The Police. Et Sting a dit plus tard, c'était frappant de se rendre compte que ça allait notre façon de gagner notre vie jusqu'à la fin de notre carrière. Et là, j'ai commencé à chercher une porte de sortie.
C'est sûr qu'à cette période, ils sont coincés dans une façon de travailler, de faire des disques qui est assez désastreuse pour le moral des troupes, hein, faut bien le dire. Ça ronge tout sentiment d'harmonie entre eux. Et en même temps, ils ont un succès énorme. C'est tout le paradoxe. Ils se détestent un peu, ils sont pas très fiers de ce qu'ils font. Mais quoi qu'il arrive, ça marche. Ils sortent des disques que les gens s'arrachent. Ils atteignent un sommet à la sortie de leur album Synchronicity en 1983. Ce qui est dingue, c'est qu'ils avaient vécu une très mauvaise expérience pendant l'enregistrement de Ghost in the Machine. Mais ils retournent quand même dans le même studio pour enregistrer Synchronicity. Ils vont dans le studio R, qui était tenu, figure-toi Sophie, par George Martin.
Notre idole à tous. Est-ce qu'on peut rappeler quand même qui était George Martin, le producteur émérite de bien des groupes et surtout des Beatles?
Évidemment. Et puis George Martin, il était malin. Il était parti faire son studio, non pas à Liverpool, ni à Londres, mais dans les Caraïbes.
Beaucoup plus sympa tout de suite, hein ?
Eh oui, alors bon, c'est peut-être pour ça qu'ils sont retournés là-bas, à cause du décor. Et en plus, figure-toi Sophie, que l'air conditionné ne fonctionne pas dans le studio. C'est une véritable fournaise et ça les met dans une humeur exécrable. Et ils décident d'enregistrer chacun séparément. Déjà, ça sentait un peu le sapin. On ne peut pas faire plus loin de leurs échanges artistiques des premiers albums. Là, ils sont vraiment presque séparés, ils se croisent quasiment pas. Et je crois que Sting est dans une salle de contrôle. Stuart Copeland a une pièce à l'étage et Andy Summer est dans le studio. Vous appelez ça synchronicité à l'arrivée, c'est à la limite du foutage de gueule.
Et il y avait une mauvaise ambiance pendant déjà l'enregistrement de Ghost in the Machine, mais là, c'est 10 fois pire. Stuart Copeland a carrément affirmé, on se détestait. Bon, bah, je crois qu'on avait compris. Oui. Et pourtant, Sting compose tout un tas de chansons qui ont beaucoup plus de succès que tout ce qu'il a écrit jusque-là pour The Police. Car c'est quand même l'album où il y a Every Breath You Take, qu'on écoute tout de suite. Every vow you breathe, every smile you fake, every claim you stick, I'll be watching you. Chanson qui a été reprise plus tard par Puff Daddy. Je dis ça comme ça, je pose ça là, Christophe.
Chanson imparable, quand même.
Ce qui est imparable. Ce qui est quand même encore plus fou, c'est que pour beaucoup des chansons qu'a porté Sting sur cet enregistrement, le groupe ne les entendait pour la première fois que le jour même de l'enregistrement. Et Every Breath You Take, à beau être leur tube, c'est la chanson qui a le plus déchiré le groupe. Car Sting avait une idée extrêmement arrêtée de la façon dont il voulait que ça sonne. Donc, entre autres, il voulait que Stewart Copeland joue des rythmes extrêmement simples, réguliers. Stewart, lui, était super frustré parce que, bon, d'accord, Sting écrivait tous les tubes, mais il aurait quand même bien pu lui laisser une petite marge de liberté, celle qui lui restait encore, celle du batteur.
Exactement. Et après, on a beau comprendre parfaitement ce que ressentait Stewart Copeland vu l'attitude dictatoriale de Sting, c'est quand même Every Breath You Take. Et elle est déjà tellement forte par elle-même que Sting a eu raison de lui dire d'en faire le moins possible, de se mettre au service de la chanson, de ne pas se laisser aller à son impulsion artistique, à faire des parties de batterie spectaculaires pour flatter son ego. Finalement, ça résume bien le problème principal de cet album, Synchronicity, le mal nommé. C'était déjà un album solo de Sting. Au début du groupe, ce sont trois blondinets qui semblent s'amuser comme des gamins. Ils ont une gaieté contagieuse, un truc un peu boys band. Et puis, à côté de ça, on a Synchronicity avec des chansons aux paroles très lourdes, aux références à Carl Jung. Il y a des titres comme King of Pain, Wrap Around Your Fingers ou Murder by Numbers. Donc, c'est un peu sombre. Et on se marre pas beaucoup avec cet album, avec tout cet aspect divertissant qu'ils avaient au début avait disparu dans The Police.
Et c'était d'ailleurs un gros point de dispute entre Sting et Stewart parce qu'ils avaient une approche de la musique complètement imposée. Pour Sting, la musique servait à noyer la douleur, permettait de s'échapper de la dure réalité, une catharsis quoi. Alors que Stewart disait toujours « la musique c'est une fête ». Et on voit cette dualité entre ombre et lumière dans Synchronicity. Il y a carrément un monde entre la première phase du disque qui avait toutes les chansons à up-tempo et l'autre face avec toutes les chansons lentes, clairement déprimantes. Même « Every Breath You Take », quand on écoute les paroles, elle parle quand même de surveillance, de harcèlement. C'est vraiment, franchement, pas gay. Si Andy Stewart...
En même temps, il s'appelait The Police, hein.
Oui. Oh. Oh, Christophe Comte.
Ah bah
oui, oh là là.
Surveillance,
oh,
harcèlement.
Pas mal. Pas mal. Non, ah bah oui, non, mais tout est logique, tout est logique, tout est logique. Et si Andy Stewart composait des chansons en jouées, ce n'était pas du tout l'état d'esprit de Sting. Son mariage était en train d'imploser et ce King of Pain, par exemple, était un vrai appel à l'aide. Andy et Stewart devaient se mettre en accord avec leur chanteur, même si c'était complètement éloigné d'où ils en étaient, eux.
Et on a encore ce contraste incroyable entre la façon dont les enregistrements de disques se passent, qui les déchirent, et ce qui en découle. Il ne pourrait pas demander mieux. L'album Synchronicity se vend à 8 millions d'exemplaires aux États-Unis. Every Breath You Take fait un carton, ça devient un classique de cette période. The Police commence à remplir des stades entiers. Sting porte un uniforme grandiose à l'époque, coloré tous les soirs. Il arrive sur scène avec ce truc assez dingue. Et il est, encore une fois, aux antipodes des débuts du groupe, où ils avaient un look comme ça, ils étaient en treillis avec leur teinture blonde, où ils avaient un vrai look. Et là, les deux autres passent un peu pour des figurants. Leur look débraillé a laissé place à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, majestueux de la part de Sting. Et là, dans les stades immenses, on voit que lui. On le voit, il est là, le grand chanteur blond platine avec son costume bariolé qui écrase le reste du groupe.
Et ils atteignent le sommet quand ils affichent complet au Shea Stadium à New York, ce qui est quand même un symbole ultime de succès depuis que les Beatles, encore eux, y ont joué en 65. Et c'est à ce moment-là que Sting se dit « on y est ». On l'a fait, on a grimpé en haut de l'Everest. Et là, attention, on voit là les pensées véhiculées dans le cerveau de Sting. Finalement, le soir de ce concert monstrueux au Shea Stadium, il aurait dit à Andy « on ne pourra pas faire mieux. Et si on s'arrêtait là ? » Et à sa grande surprise, Andy aurait accepté. Parce que finalement, c'était lui qui supportait le mieux la situation à ce moment-là. Et qui se disait « bon, je m'amuse bien quand même, je pourrais continuer comme ça pendant un petit moment. » Mais il a dû quand même finir par se rendre compte qu'il fallait mieux tout arrêter tant qu'ils étaient tout en haut, plutôt que de voir le groupe décliner lentement.
C'est sûr, après arrêter ne voulait pas dire la même chose pour Stewart et Andy que pour Sting.
Non.
Qui se rendait compte qu'il n'avait plus vraiment besoin de faire partie du groupe pour continuer sa carrière. Une carrière solo où il pourrait faire exactement ce qu'il voulait sans avoir à batailler avec les deux autres en permanence. C'est classique hein, dans les groupes, quand on fait une carrière solo, généralement c'est pour éviter d'avoir les deux ou les trois autres qui vous collent après. Donc c'est beaucoup plus attirant pour lui de faire ça à ce moment-là, retourner à la musique qu'il aimait avant de rejoindre The Police. Et finalement, il a confié plus tard que The Police était le premier groupe de rock dont il avait fait partie. Et avant ça, il ne faisait que du jazz et de la pop.
Il y a pas mal de théories, Christophe, hein, qui cherchent à expliquer pourquoi il a voulu partir au-delà de l'ambiance délétère dans le groupe, ce qui en soi est une raison amplement suffisante. Certaines personnes pensent que, comme son mariage était en train lentement se désintégrer, il n'avait pas envie de revivre ce trauma avec le groupe. D'autres pensent que les profits de l'album étaient répartis équitablement entre les trois membres du groupe.
Ah. Et des affaires de fric.
Et oui, et que Sting en aurait eu un petit peu marre hein, de diviser les profits, sachant que c'était quand même lui qui faisait la plus grosse part du boulot.
Hein.
Et qui serait dit qu'il pouvait continuer à écrire ses chansons et récupérer tous les royalties en embauchant les meilleurs musiciens de jazz du monde.
C'est là où on commence à s'endormir. Là,
voilà, c'est ça. Hein. Et d'après la légende, les membres de The Police se sont plutôt séparés au sommet de leur gloire pour préserver la réputation artistique du groupe. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils n'ont jamais fait d'annonce officielle de leur séparation, Christophe.
Bah, ils savaient que l'aventure était finie, mais leur manager trouvait que c'était mieux de laisser planer un doute. Après, on ne s'en souvient pas forcément, Sophie, mais ils ont quand même fait une tentative pour se retrouver assez rapidement après leur séparation. Deux ans après qu'ils aient tout arrêté, en 1986, Sting a demandé à Stuart Copeland de participer à quelques concerts pour soutenir une campagne de dons pour Amnesty International, à laquelle participait aussi U2, l'autre grand groupe concerné de l'époque. Alors c'est un gros événement, et The Police est encore très connu à cette époque, hein. Mais apparemment, rien que l'idée de faire trois concerts ensemble, c'était trop compliqué.
C'était trop tout court d'ailleurs.
Oui, c'était trop compliqué pour tout le monde. Donc, ils se disent que c'est peut-être pas une bonne idée, qu'il vaut peut-être mieux retourner en studio. C'est bizarre hein, comme réflexion, mais bon. Leur label voulait sortir un best-of à l'époque et ils se disent que ce serait pas mal qu'il y ait de nouvelles chansons sur le disque. Ici, tout va bien, que ça se vendrait beaucoup mieux, évidemment. Et du coup, ils décident pas de réenregistrer plusieurs de leurs anciennes chansons.
Non, mais une personne n'a envie de ça. C'est pas comme si les chansons, elles dataient de 20 ans avant, quoi. Donc, elles datent de quoi, 5 ou 6 ans. Donc, c'était déjà une très mauvaise idée. Mais le pire, c'est que Stewart Copeland jouait au polo, et bah oui, quelques jours avant la session d'enregistrement, à cheval, donc. Et donc, ce qui devait arriver arriva, il tombe de cheval, se casse l'épaule, donc évidemment, et ne peut pas jouer.
Alors si vous êtes musicien, on vous en supplie, ne faites pas ça. Ne montez pas à cheval si vous faites partie d'un groupe. Ou alors si vous y tenez vraiment, montez un poney, un gentil poney bien lent, bien docile, parce que vous allez forcément tomber au mauvais moment et vous casser quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé, donc évidemment, Stuart Copeland ne peut pas faire de la batterie. Ils utilisent à la place, évidemment, une boîte à rythme pour ces enregistrements. Alors que si on y réfléchit, c'est l'apport de Stuart Copeland qui a fait une grande partie du son si spécifique de The Police. Si on enlève ça, on se retrouve avec Sting et Andy Summer qui jouent de manière en version pop, remplie de synthé, des vieilles chansons de Police. Ça ne peut pas fonctionner. Et je pense que c'est pour ça que personne ne se souvient de cet épisode. C'est trop douloureux. Et surtout, n'écoutez pas la version de 1986 de Don't Stand So Close To Me parce que c'est vraiment abominable.
Le pire, c'est qu'ils ont tout enregistré sur une journée, Christophe.
Oui, ça s'entend. Hein.
Et ils ont passé les deux semaines suivantes prévues sur la session à se chamailler sur quelle boîte à rythme utiliser. Bon là, on arrive au point où on se dit d'accord, c'est vraiment le moment de s'arrêter. Quand Stewart sera guéri, on va pas se retrouver pour de vrai parce que vraiment ça va pas le faire. Et quand ils ont fini par se retrouver, c'était pour le mariage de Sting en 92. Il y a même des images d'archives sur YouTube pour les intéresser. Donc le groupe qui a été payé pour jouer laisse ses instruments sur la scène au bout d'un moment et les invités essaient de convaincre Stewart et Andy de monter sur scène avec Sting. D'ailleurs, on remarque, ils sont invités au mariage, donc ça veut dire qu'en dehors de la scène, ils étaient quand même relativement bons amis. Quoi qu'il en soit, Sting, il n'a pas vraiment envie de ça le jour de son mariage, mais bon, quelques verres plus tard, allez, pourquoi pas. Il monte sur scène,
allez, hop,
et il joue Message in a Bottle et Roxanne. On voit trois potes complètement faits qui se marrent. Et pourtant, selon Sting, des tensions ont immédiatement refait surface. Il a raconté « On était de nouveau dans cet ancien état d'esprit, Stewart fronçait les sourcils et m'envoyait ses baquets à la figure. » Donc à nouveau, pas une bonne expérience.
Et les tensions sont revenues quand ils ont été intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2003. Dès qu'on les fait jouer ensemble, les anciens ressentiments refont immédiatement surface. Et pourtant, malgré toute cette ambiance toxique, on continue à leur demander dans la presse s'ils comptent un jour reformer The Police. Alors ceci dit, c'est assez logique qu'on pose cette question à Stuart Copeland et Andy Summers, dont les carrières n'ont pas atteint des sommets après The Police. Andy Summers a continué sa carrière en jouant par-ci par-là dans le monde du jazz instrumental. Il a composé quelques musiques de films. Stuart Copeland aussi, il a d'ailleurs fait la BO de Rusty James, notamment de Francis Ford Coppola. Mais à côté, on a Sting et forcément, lui, il continue à avoir une carrière très successful dans les années 80 et 90. Notamment dès son premier album qui s'appelle The Dream of the Blue Turtles et on écoute cette chanson imparable aussi qui s'appelle Russians. Sans qu'il est libre, il n'y a plus les guitares, il n'y a plus de batterie.
On est à fond justement dans les grands compositeurs russes dont il s'inspire plus que largement ici. Mais le truc, c'est que Sting a toujours été bon compositeur. Il avait vraiment l'oreille pour les belles mélodies, c'est un bon chanteur. Mais ce qu'il a perdu en quittant The Police, c'est cette énergie que dégage un vrai groupe. Du coup, ses albums en manquent. Et je pense que c'est pour ça que malgré le succès de sa carrière en solo, les journalistes n'arrêtaient pas de demander « Mais quand est-ce que vous allez reformer The Police ?» Alors pendant des années, il a ignoré, mais alors là, ça a quand même vraiment fini par l'énerver. Et au final, à la fin des années 2000, il était plus aussi fermé à l'idée, Christophe.
Et oui, le pic de cette perte d'énergie, on va dire, dans la carrière de Sting, je dirais, c'est son album pour Lutte. pour Lutte, vous avez bien... Lutte, L-U-T-H, pour le Lutte, quoi. Ce qui s'appelle Songs from the Labyrinth, qui a quand même eu, à grande surprise de tout le monde, un énorme succès. Alors, il s'était un peu perdu dans ce qu'il fallait faire à ce moment-là.
Ah, tu m'étonnes.
Après l'album de Lutte, il veut retrouver ses anciens camarades. Même le groupe a été surpris par cette idée, mais apparemment, en trois semaines, c'était plié, tous les contrats a été signé et il commence déjà à organiser la tournée. Alors en tout cas, Andy et Stewart étaient ravis de reprendre du service. Trois mois après, ils font leur grand concert de retrouvailles aux Grammy Awards, début 2007. Et le jour suivant, ils font un petit concert au Whiskey à Gogo. Et là, c'était la première salle où ils avaient joué, figure-toi, à Los Angeles en 1979. Et ils annoncent une nouvelle tournée. Et quand les journalistes demandent à Sting pourquoi il fait justement ce qu'il a dit qu'il ne ferait jamais, reformer The Police, il répond « Je connais des choses en musique que je ne connaissais pas à l'époque. Et je suis aussi un meilleur leader du groupe qu'avant. » Bon, bref. Intéressant qu'il choisisse de dire ça au tout début de la tournée, tant attendue de retrouvailles d'un groupe où il a historiquement eu beaucoup de tensions.
Et bien sûr, tout se passe comme on aurait pu s'y attendre. Beaucoup de conflits en coulisses. Andy Summers et Stewart Copeland sont assez irrités par le fait que Sting prennent les devants sur tout et contrôlent absolument tout. Un journaliste de Rolling Stone raconte qu'il a vu Sting et Andy Summer se disputer pendant 30 minutes, montre en main, sur un riff de guitare de la chanson Walking in Your Footsteps. Sting lui demande de le rejouer encore et encore, qu'il ne fait pas exactement comme il faut, alors qu'il parle quand même au mec qui a joué sur l'enregistrement d'origine. Hein. Donc, bon, quand même, c'est limite.
Là, on le reconnaît bien, là, notre petit Sting. Hein.
Ah, merci Sting, hein, ouais. Merci. Et la tournée est quand même le plus grand succès commercial jamais enregistré en musique live. J'imagine que même si Sting les énervait sincèrement, Andy Stewart devait bien avoir envie que ça continue, voire même qu'ils refassent un disque ensemble. Mais Sting a été très clair sur le fait qu'il voulait surtout pas réenregistrer avec The Police.
C'est marrant parce que ça ressemble vraiment trait pour trait à ce qui s'est passé avec Téléphone. Téléphone, c'était exactement pareil. Quand ils se sont reformés, ils ne pouvaient pas se blairer, mais ils jouaient ensemble quand même. Bon, bref, ils n'ont pas fait un nouveau morceau.
Mais par contre, ils n'ont pas eu le même succès en musique live que The Police.
C'est vrai.
Fort heureusement, d'ailleurs.
Quelque part, on peut comprendre le point de vue de Sting. Hein. Il a une carrière qui marche très bien en solo. Il peut faire autant de tournées qu'il veut et faire beaucoup d'argent, même s'il ne remplit pas des stades entiers comme il le faisait avec The Police. Un peu comme pour Simon et Garfunkel. Hein. Tu te souviens, Sophie, leur duo est plus connu que la carrière solo de Paul Simon, même s'il a eu une super carrière après leur séparation.
Ah bah l'album Graceland, c'est un des plus grands albums de l'époque quand même. Magnifique.
En tout cas, c'est un peu brutal comme façon d'annoncer la nouvelle aux deux autres. Et pourtant, comme tu l'as dit en introduction, ils sont restés amis durant toutes ces années. Apparemment, ils se voient régulièrement, ils se rendent au concert des uns et des autres et se soutiennent mutuellement.
Oui, en gros, ils s'apprécient en toute situation, sauf quand ils jouent ensemble.
Bah oui, c'est un peu dommage pour un groupe. Mais bon.
Oui, ou alors ça crée une dynamique de frères ennemis. Mais en tout cas, quand Sting donnait des concerts avec le chanteur de reggae Shaggy, Stewart et Andy, ils ont acheté leur place au premier rang, d'après eux, pour pouvoir se moquer un peu de Sting et d'être première loge.
Bah oui, si tes amis ne peuvent pas se moquer un peu de toi quand tu collabores avec Shaggy, franchement, ce ne sont pas de vrais amis. C'est le signe d'un véritable amour.
Oh, mais non, attends, il est super sympa, c'est... Shaggy. Tu sais, je me souviendrai toujours, Christophe, d'être allé en Jamaïque pour l'interviewer avec Sting, justement, pour cet album en commun. Et donc, on devait se parler sur le tournage de leur clip. Et en arrivant le matin, vraiment à l'aube, à l'entrée de la rue...
On a fait des choses difficiles. Hein,
ah, franchement... J'ai tout vu, moi. J'ai
parler
tout vu,
à Sting et Shaggy, je vais dire que...
Non, c'était trop, très sympa. Par contre, ce qui
à
était
Kingston,
moins sympa...
À Kingston, en plus, hein,
Kingston,
la plus accueillante.
Bah justement, le matin, on arrive sur le lieu de l'interview, le lieu du tournage du clip, et à l'entrée de la rue, et bah, l'entrée de la rue était barrée. Était barrée parce qu'il y avait un cadavre et qu'on devait attendre qu'il débarrasse le cadavre.
C'est sympa, dis donc.
Bah, ambiance, c'était très sympathique comme voyage.
Ah là là, il est temps maintenant de passer au bilan de cette rivalité en étudiant les arguments en faveur de chaque partie. Alors, on va commencer par Sting. Hein. À partir de la sortie de Roxanne, c'est clairement lui qui a écrit les plus gros tubes du groupe, hein, on l'a dit. C'est la figure de proue de The Police, c'était un excellent chanteur. Même s'il aurait pu être plus diplomate, il avait une vision claire pour le groupe. Il avait raison de dire que Stuart Copeland n'était pas obligé d'y aller à fond tout le temps et de prendre ses aises sur une chanson comme Every Breath You Take, qui est forte en elle-même, même si ce conflit a fini par détruire le groupe de l'intérieur. Artistiquement, c'était pour le mieux.
Bah, imagine ce que ça aurait donné s'ils avaient continué à faire ce que Stewart Copeland imaginait au départ. Ça aurait été un faux groupe de punk, là, tout téléphoné d'ailleurs. Mmh. Sting est un excellent compositeur, un bon parolier, sans parler son talent de bassiste quand même. C'est un très bon instrumentiste et puis c'est un excellent joueur de luth.
Alors, franchement, je connais pas d'autres joueurs de luth, hein, je sais pas qui en connaît, hein, des gens vont nous envoyer des mails, des spécialistes du luth qui vont dire « Oh ben non, moi, nous on connaît plein, mais enfin nous, franchement, le luth, hein, on connaît que c'est le luth final. Hein. »
Bon, alors, passons... Heureusement qu'on arrive à la fin de cette série de podcasts, hein, Christophe
Donc,
Comte.
Passons du côté des pros Andy Summers et Stuart Copeland. Alors pour moi, ils ont donné un cadre aux morceaux de Police en leur apportant une autre dimension. Hein, les chansons de Sting en solo n'ont pas la même énergie, hein, cette tension, cette friction qu'ont les meilleurs titres de The Police. Il faut aussi regarder leur rapport individuel. Hein. Stuart Copeland est un excellent batteur parmi les plus grands de l'histoire du rock. Et Andy Summer est un très bon guitariste. Il se met au service des chansons. Il a une façon de jouer unique, très identifiable. Et s'il n'avait pas été là, le son de Police aurait été complètement différent.
Malgré toute la frustration que Sting provoquait en prenant toute la place dans l'œil du public... Et dans le fonctionnement du groupe, les deux autres savaient pertinemment que ces chansons étaient les meilleures, mais voulaient qu'ils les laissent apporter leur contribution, tout simplement, au travail commun. Et Stewart a dit plus tard, je cite, « Il n'y a rien de plus naturel pour moi que de me tenir aux côtés de quelqu'un qui brille davantage que moi. Ça ne me gêne pas, mais il a intérêt à être particulièrement brillant, ce qui est plutôt généreux. »
Alors finalement, j'en ai parlé au début de cette émission, hein, c'était très surprenant que ces trois-là décident de monter un groupe ensemble.
Et on a souvent dit ça, hein, sur tous les épisodes du podcast, mais sans les tensions qui ont fini par séparer les groupes, ils n'auraient jamais fait d'aussi bonne musique.
Et oui, Sophie, tout ça pour dire que c'était notre dernier épisode, Sophie. Et oui, c'est insupportable pour moi de te quitter. I can't stand losing you, Sophie.
Oh, Christophe, ça, vraiment, ça m'émeut profondément ce que tu es en train de me dire. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast, d'avoir écouté ce dernier épisode de Face à Face, de nous avoir suivis sur toutes les embrouilles de l'histoire de la musique qu'on a pu raconter, décrypter, d'avoir écouté aussi toutes nos conneries, il faut quand même bien le dire. Donc, bonne rentrée à tous.
Et ne vous embrouillez pas. Face à Face est un podcast Energy et iHeart Podcast.
Cet épisode a été écrit par Steven Hayden et Jordan Huntag pour le podcast américain Revolts.
Il a été traduit par Marie-Cécile Henri Brossard, Every Little Tradition She Does Is Magic.
Il a été réécrit, adapté et interprété par Christophe Comte, aussi talentueux au saxo que Sting.
Et par Sophie Rosemont, la bassiste renommée de notre duo.
Ah, tu l'as dit. Et à la production, une fan de Shaggy, et oui, Diane Dahan.
Au montage et au mix, notre Omega Man à nous, Dimitri Vaillant.
À la rédaction en chef, et non, ce n'est pas Roxane, mais Maud Ventura.
Retrouvez tous les épisodes sur energy.fr, sur l'app Energy ou sur votre application de podcast préférée.
Et si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, mais aussi de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts par exemple, et un petit commentaire. À bientôt.